Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Academy. C'est en compagnie de Madame Florence Delay de l'Académie française que nous allons feuilleter ensemble trois livres, tous trois rédigés par Monseigneur Daniel Peyseril, que Madame Delay a bien connu. Et c'est la forte personnalité de Monseigneur Peyseril que nous allons, grâce à elle, découvrir. Madame Delay, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour, merci. Soyez la bienvenue dans le studio de Canal Academy qui aujourd'hui est transformé en salon. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été élue à l'Académie française au fauteuil 10 en l'an 2000. Et ce fauteuil était précédemment occupé par le philosophe Jean Guiton. Et vous êtes à la fois écrivain, romancier ou romancière, essayiste, comédienne. On se souvient que vous avez interprété le rôle de Jeanne dans le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson. C'était en 1961. Vous aviez 20 ans. Et après, vous avez continué à travailler pour le cinéma, pour le théâtre, tout en poursuivant une carrière d'écrivain. Mais aujourd'hui, vous avez souhaité non pas que l'on parle de vous, de votre carrière, de votre parcours, mais que l'on évoque un homme hors du commun, un prêtre, un évêque même, Monseigneur Daniel Peyseril. Et vous avez joué un rôle influent pour faire paraître trois livres, ces trois livres qui sont republiés ensemble par les éditions du CERF en 2007 et qui s'intitulent « Passage des vivants », dont vous avez réuni donc les textes, préfacé cet ouvrage, « Rue Notre-Dame », qui est un roman préfacé par le cardinal Jean-Marie Lustiger de l'Académie française, et « Spinoza l'étranger », dont vous avez également établi le texte. Alors ma première question, Madame Delay, sera toute simple. Quels étaient les liens qui vous unissaient à Monseigneur Peyseril? Vous l'aviez connu?
Écoutez, si j'évoque ma rencontre avec lui, je dois passer par une de mes vies qui a été une des plus importantes, qui est mon travail à l'université et où j'ai enseigné pendant des années la littérature générale et comparée en étant de formation hispaniste et agrégée d'espagnol. Mon lien avec l'Espagne m'a entraînée à connaître un écrivain espagnol, José Bergamín, d'une forte personnalité catholique républicain, qui vécut une grande partie de sa vie en exil. Et à la fin de sa vie, Bergamín n'avait rien et j'ai créé une association de ses amis français pour lui venir en aide. Et un des premiers à envoyer sa cotisation a été Daniel Peyseril. Daniel Peyseril avait rencontré Bergamín à l'église Saint-Séverin, quand il était prêtre de Saint-Séverin. Bergamín étant venu le trouver parce que Daniel Peyseril avait accompagné les derniers jours de Bernanos. Et là, il y a une chaîne, cette chaîne qui a fait que Peyseril, jeune prêtre, accompagne Bernanos dans ses derniers moments, que par admiration et reconnaissance pour Bernanos, qui a écrit « Les grands cimetières sous la lune », Bergamín vient trouver Peyseril, et quand, à son tour, Bergamín meurt, Daniel Peyseril m'écrit une lettre me demandant de célébrer une messe à Saint-Séverin pour lui. Et c'est ainsi que je l'ai rencontré. Pardon de cette grande courbe.
C'est une grande rencontre. Ce sont de grandes rencontres. Elles font d'ailleurs l'objet de ce livre intitulé « Passage des vivants » où je dois dire qu'on lit avec beaucoup d'émotion non seulement le chapitre que Monseigneur Peyseril consacre à Bernanos, mais celui qu'il consacre à Bergamín aussi et celui qu'il consacre à Albert Béguin aussi, je crois. Donc ce sont vraiment des rencontres dans cet ouvrage qui sont vraiment à découvrir.
En fait, « Passage des vivants » était un énorme dossier qu'il avait réuni pendant des années et des années, où il avait empilé, au fond, tous ses témoignages, ses adieux à ses amis ou à des inconnus, tous ces témoignages des gens qu'il avait accompagnés dans la disparition. D'où ce très beau titre, « Passage des vivants », qui en fait contient beaucoup plus de textes que ceux que j'ai choisis pour ce livre publié au CERF.
Mais certainement, vous avez choisi des textes extrêmement émouvants, car j'ai eu beaucoup d'émotions à les lire. Rappelons alors quelques mots de la biographie de Mgr Pezril. Il est né en 1911 au Chili. Il a été ordonné prêtre en 1937. Et après, il a suivi une carrière, j'allais dire, de prêtre, de curé de paroisse. Vous avez mentionné Saint-Séverin, mais il y en a eu d'autres dans Paris.
De paroisse en paroisse. Il a commencé à Saint-Étienne-du-Mont, où il était vicaire pendant l'occupation. Et d'ailleurs, c'est là qu'il est venu en aide à beaucoup, beaucoup de gens.
Je crois qu'il faut le dire, il a fait des faux certificats de baptême pour énormément d'enfants juifs. Si bien qu'il a eu cette décoration prestigieuse.
C'est ça, il est juste parmi les justes. Il a son arbre à Jérusalem.
En 1996. Et il a donc été évêque auxiliaire de Paris avec Mgr Frossard en 1968. Et c'était donc un homme très ouvert à, non seulement au milieu chrétien, naturellement, mais à tous les autres milieux.
Oui, c'est sans doute le trait principal de sa personnalité. Il a été un homme d'ouverture et de réconciliation. Et souvent, il a fait le premier, un peu en avant-garde, d'une certaine façon, des choses que l'Église catholique et l'institution feraient plus tard. Il a tendu la main aux Juifs, aux musulmans, il a prononcé des conférences chez les francs-maçons. Ouais, il parcourait le monde.
Dans votre préface, Florence Delay, vous dites son devoir, entre guillemets, comprendre et rassembler. Et donc, aussi bien les Juifs que les étudiants, que les émigrés, que les pauvres, que les francs-maçons, comme vous l'avez dit. Il œuvre pour toutes les alliances possibles. C'est vraiment un homme de conciliation et réconciliation.
Tout à fait, ce mot le résume très bien, toutes les alliances. Pas seulement l'ancienne et la nouvelle.
Je crois que vous avez aussi envie de raconter comment Daniel Pezril s'est senti une vocation de prêtre. Car ça n'est pas une affaire ordinaire. Il s'est senti une vocation très précoce.
Ce qui m'a beaucoup frappé quand, quelques jours, quelques semaines avant sa mort, nous parlions et il m'a dit pourquoi il avait été prêtre. Et je lui ai demandé de noter ses paroles parce que ça m'a beaucoup impressionné. Si vous voulez bien, je les lirai.
Mais je vais vous demander de les lire, en effet, parce que vous les avez reproduites dans votre ouvrage.
Parce qu'en fait, ces paroles m'ont beaucoup évoqué le déchirement de Bernanos après la même guerre, quand il a vu qu'au fond, tout recommençait comme avant. Quand Bernanos imagine le Satan d'après-guerre, je pense qu'il est très fraternel avec la pensée même de Pezril. Alors, les paroles que Daniel Pezril m'a dictées sont les suivantes. En quelques mots, je voudrais dire pourquoi je suis prêtre. J'appartiens à la génération qui avait quelques années en 1914. Il y a eu la guerre. Mon père a subi à la frontière belge, près d'Ypres, la première attaque de gaz asphyxiant. Deux de mes oncles avaient déjà été tués, l'un à la Marne, l'autre dans l'Artois. Un troisième devait mourir à Salonique en 1918. Quatre jeunes hommes en 4 ans, dans la même famille, fut-elle nombreuse. C'était pour elle une catastrophe inéluctable. Comment étaient-ils morts ? Bien malgré eux, évidemment, comme tout le monde. Pourtant, c'était le langage du moment, non sans avoir de quelque façon donné leur vie pour nous. J'étais convaincue du fait pour mon père. Vint l'armistice du 11 novembre 1918. Je vois encore l'écho de Paris de ce jour-là déplié sur la table de la salle à manger. Pour la première fois, j'ai lu les titres et vu les images d'un journal. Les survivants de l'immense hécatombe revinrent des champs de bataille. Beaucoup avaient été des hommes d'un grand courage. Ils réapparaissaient parmi nous les uns après les autres, se réinstallaient, reconstituaient leur famille ou contractaient de nouveaux liens, reprenaient leurs métiers et leurs affaires, se redistribuaient avec des promotions inattendues les fonctions publiques et privées, puisque dans les campagnes, ils réoccupaient les places vides. Dans la ville, on voyait les boutiques repeintes, et sur la porte d'entrée, le nom du nouveau commerçant. Une société renaissait où, dépourvue de références sociales, nous étions comme de trop, à la charge de la nation, nous, les enfants des morts. Naïvement et sans m'en rendre compte, je m'attendais au contraire, si jeune que je fus, à un monde réanimé, ayant l'esprit et le cœur que non sans raison j'attribuais à mon père. Très vite, il en fut autrement. La désillusion fut amère. J'en ressentis dans la vie quotidienne les multiples conséquences. Ce qui s'implantait était une société comme auparavant, sans doute, comme toutes les autres, parfois même plus âpre et plus insolente pour compenser le temps perdu dans la pratique collective des sept péchés capitaux. Je me demandais, atteint par cette solitude, si mon père avait vraiment donné sa vie pour cela. Il me devint très tôt impossible de pactiser avec cette ambiguïté et cette démission patente d'une nouvelle époque. J'ai compris peu à peu que c'était dans des conditions identiques que le Christ, le Fils de Dieu fait homme, avait donné sa vie pour tous. Ayant à mon tour à donner ma vie pour qu'elle ait un sens, j'en suis venu au désir de m'y engager comme lui, avec lui. C'est ainsi que très tôt, je me suis mis à exister personnellement et de mon propre chef, dans le plus grand secret, comme un prêtre de demain. Oserais-je le dire, instruit douloureusement par l'expérience de mon père.
Florence Delay, vous l'avez précisé, on ne peut pas évoquer Mgr Pézeril sans évoquer l'influence de la pensée de Bernanos sur sa vie et à la fois sur son œuvre. Comment vous pourriez résumer cette influence de Bernanos et cette relation à Bernanos de Daniel Pézeril?
Écoutez, je ne la connais pas très bien. Ce que j'ai senti, c'est que dans cette rencontre des derniers temps, puisque, au fond, il a été appelé au chevet de Bernanos au moment où commençait l'agonie de Bernanos. Dans cette rencontre, il y a eu une flamme, quelque chose qui a brûlé entre eux. Il a compté pour Bernanos autant que Bernanos a compté pour lui. J'en veux pour preuve qu'il est exécuteur testamentaire de Bernanos et qu'il y a beaucoup, beaucoup de papiers. Il y a tout un trésor dans l'héritage de Mgr Pézeril. Et ensuite, il a eu à cœur de connaître mieux celui qu'il n'avait connu que sur le départ. Et je pense qu'à ce moment-là, il a tout lu et qu'il est allé plus loin. Dans sa fidélité profonde, il a entrepris un travail que personne n'aurait entrepris, un énorme travail, qui est l'édition des cahiers de Monsieur Wynne. Monsieur Wynne, chef-d'œuvre de Bernanos. Daniel Pézeril a eu à cœur de publier ces cahiers qui, en fait, nous montrent, mieux qu'aucune explication de texte, ce que poursuivait Bernanos en écrivant et comment il écrivait. Et c'est un trésor, cette édition des cahiers de Monsieur Wynne aux éditions du Seuil par Pézeril, est véritablement un travail de, et aussi de grand universitaire, pardon, parce qu'il était tout cela. Il aurait pu avoir 10 vies.
Peut-être les a-t-il eu en effet, oui, puisqu'il a encore eu une autre vie comme évêque, c'est-à-dire qu'il a participé au Concile Vatican II. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un autre livre qu'il a intitulé « Le Christ étonné ». Nous-mêmes, on s'étonne de ce titre d'ailleurs. Pourquoi a-t-il appelé son expérience, le Christ étonné?
Alors écoutez, je ne sais pas si l'expression vient de l'évangile de Marc ou de Matthieu, mais à un certain moment, il est dit, cet étonnement est pris de façon triste. Le Christ est étonné, alors là, le père Pézeril cite le grec, que je ne connais pas, de l'incrédulité qui l'entoure. Et il a pris le mot étonnement dans ce sens de tristesse, de questionnement triste, alors qu'il est lui-même lumière, de ne pas la susciter et au contraire de susciter un mouvement de doute. Voilà, je crois que c'est ça le titre. Le secret de ce titre, c'est un magnifique livre dont il souhaitait qu'il soit lu autant par les chrétiens que les non-chrétiens. Car tout à l'heure, vous évoquiez cet intérêt qu'il avait pour tous, et je reviens là-dessus parce que il s'intéressait beaucoup à l'incrédulité et à la naissance en France de l'hostilité à la religion et
À la déchristianisation, d'une certaine façon.
Absolument.
Mais il la faisait remonter assez loin dans l'histoire. Elle ne datait pas des années d'avant-guerre.
Il la fait remonter au siècle des Lumières, j'ai l'impression.
Au XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle. Oui. C'est-à-dire dans l'instauration, soi-disant, d'un âge de raison, qui sera suivi au XIXe par l'ère de l'esprit scientifique et au rejet de la foi et de l'appartenance spirituelle.
Est-ce cette interrogation sur une forme de déchristianisation qui l'a poussée à s'intéresser au philosophe Spinoza ? Parce que l'un de ses livres, c'est tout de même Spinoza l'étranger.
Spinoza l'étranger. Oui, alors là, c'est un livre auquel il tenait beaucoup, qu'il a écrit à... Je parle toujours de lui au présent, j'ai du mal à penser qu'il n'est pas là. Bon, qu'il a écrit même au milieu de sa vie, je crois. Parce que quand il faisait ses études de philosophie, il faut dire que parallèlement à son noviciat chez les oratoriens, il a poursuivi une licence de philo à la Sorbonne. Et ces années-là, Léon Brunswick était un des grands philosophes du moment, spécialiste de Spinoza, et Spinoza était le maître des maîtres. Et d'ailleurs, l'influence de Spinoza n'est allée que grandissant, parce qu'ensuite va venir la génération de Deleuze, il va être... Un maître de plus en plus grand, Spinoza. Mais il commence à l'être à l'époque de la jeunesse de Pezril. Et Pezril a lu avec passion l'éthique et s'est rendu compte qu'il était en face du plus grand étranger.
À la pensée chrétienne.
À la pensée chrétienne. Et il a voulu le comprendre. Et donc, il a écrit sur lui et puis il a voulu inclure son essai sur Spinoza dans le Christ étonné, en parallèle avec son Saint-Augustin, puis il a compris que ça prenait trop de place, il l'a retiré, et pensait le publier indépendamment. C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Ce que j'ai fait
ça après, ne s'était pas fait, en vérité. Non. Il n'a pas eu le temps de le publier, et c'est vous-même qui avez retrouvé assez de papier.
Deux versions, et j'ai pris le meilleur de l'une et de l'autre. Voilà.
Pour établir donc son étude sur Spinoza, que les étudiants s'intéressant à la philosophie pourront lire avec, je suppose, grand profit. Comment avez-vous travaillé, Florence Delay ? Combien de temps ce travail pour préfacer ces livres, pour les présenter, pour rassembler les textes, ça vous a pris beaucoup de temps ?
Là, je dois remercier trois autres femmes, parce qu'après la mort de Pezril, on a été quatre à tout ranger, tout classer, tout voir. Rachel Poulain, Odile Collat et Marie-France Julien. Et c'est là qu'est né en nous le secret désir de faire quelque chose avec tout ça. Et comme j'étais l'intellectuelle de la bande, enfin celle qui pouvait prendre les choses en main, elles m'ont confié ce travail. Reste que ce que nous avons fait ensemble, alors tout à fait les quatre, c'est de lire ces cahiers, qui n'étaient pas du tout des cahiers intimes, mais des cahiers intérieurs, où il avait noté, depuis le début de son ministère, des phrases chrétiennes, venues du bréviaire, des évangiles, de ses lectures, ou même non chrétiennes, de poètes, de philosophes, qu'il souhaitait rassembler pour en faire un trésor chrétien. Il appelait ça des maximes chrétiennes, ce n'était pas des maximes, c'était des phrases. Nous avons intitulé cette partie « Les prairies intérieures ».
Les prairies intérieures, oui, c'est très joli comme titre.
Il a, à plusieurs reprises, cité Saint Grégoire le Grand, une homélie de Grégoire le Grand, qui commence ainsi « Tout homme qui suit le bon pasteur avec un cœur simple » et nourri dans la pâture des prairies intérieures. Et il avait mis après prairies intérieures, magnifique.
Et lui, c'est un homme avec un espace intérieur très grand, n'est-ce pas ?
Ah oui.
C'est ce qui vous a frappé ? C'est ce que vous avez aimé en lui, je suppose ?
Oui, il avait une très grande dimension, et comme c'était un généreux, quelque chose de son altitude retombait sur nous. Et on avait l'impression, après quelques heures avec lui, ou même quelques minutes, on en ressortait fortifié.
On se sentait meilleur.
Tout à fait. Il était la générosité même, comme tous les grands intelligents.
Florence Delay, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire ce que Julien Green de l'Académie française, votre confrère, écrivait à propos de Daniel Peyseril ?
Au lendemain de sa mort, l'écrivain Julien Green, très proche de lui, se remémore leur dernière entrevue et note dans son journal « Je garde cette entrevue dans l'après-midi une image de bonheur. Il parlait de l'avenir d'une manière rayonnante. Or, l'avenir à notre âge, pour beaucoup, c'est une porte sombre. Il avait le don de rassurer, sans faiblesse et sensiblerie, mais avec une façon très personnelle, j'allais dire, très XVIIe siècle, de courir à l'essentiel. » Plus loin, dans son livre « Le grand large du soir », Julien Green évoque l'accident dont a été victime Daniel Peyseril, l'hôpital et les derniers jours. Je cite « À une des personnes amies qui se relayait à son chevet et lui disait combien elle trouvait injuste ses souffrances, il répondit « C'est mon trésor ». Et plus tard parla de nous, puis de son désir de voir enfin. Il se tut et la personne murmura « Dieu ». Mais il reprit doucement la miséricorde de Dieu. Si l'on songe à ceux à qui il a consacré sa vie, les pauvres d'abord, les juifs persécutés pendant la guerre, et le pauvre et saint curé d'Ars, et saint Augustin et Bernanos, quel cortège pour l'accueillir dans la lumière et la paix.
Florence Delay, merci infiniment de nous avoir fait découvrir l'œuvre, la pensée, la personnalité de Mgr Daniel Peyseril. Je rappelle que les trois ouvrages viennent d'être republiés par le CERF, « Passage des vivants », Rue Notre-Dame, qui est un roman, l'un de ses romans, et Spinoza l'étranger, mais qu'on peut lire aussi Le Christ étonné et Pauvre et Saint curé d'Ars. En effet, Le Christ étonné, lui, est publié chez Fayard, et Les cahiers de Monsieur Wynne de Georges Bernanos sont publiés, eux, chez Le Seuil. Merci Florence Delay.
Merci à vous.